Europe 1, il est 19h. Le journal Arthur Meurieux, bonsoir.
Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, Bruno Le Maire reconnaît des abus dans le recours important des ministères au cabinet de conseil. Le ministre de l'économie juge que cette habitude est désormais corrigée. Analyse de notre journaliste politique Alexandre Chauveau. Également dans votre journal, un reportage sur les banques chaudes, des espaces dans lesquels vous pouvez boire un café gratuitement ou juste vous réchauffer. Avec la hausse des prix de l'énergie, ce concept est en train de se développer au Royaume-Uni. La Chine face à une vague de contestation inédite. Plusieurs citoyens manifestent contre la politique zéro Covid menée par le régime de Pékin. On fera le point sur la situation avec Johan Tritt. Et en fin de journal, nous reviendrons évidemment sur la victoire des Bleus lors de leur second match de cette Coupe du Monde au Qatar, qui a été très suivi par les supporters français. Nous ferons également un point sur la rencontre de ce soir, Allemagne-Espagne, avec Cyril de la Morinerie en direct du stade Al-Bayt au Qatar. La tendance météo, Marlène Duret.
Alors le temps va continuer à se dégrader demain. Tout le monde, pour ainsi dire, aura droit à son passage pluvieux. La perturbation qui va donc balayer le pays d'ouest en est sera suivie d'averses dans un ciel qui offrira quand même quelques éclaircies.
Europe 1. Bruno Le Maire le reconnaît, il y a eu des abus et des dérives dans le recours des ministères au cabinet de conseil. Une déclaration qui intervient alors que le parquet national financier a annoncé cette semaine avoir confié à des juges d'instruction deux enquêtes sur l'intervention des cabinets de conseil dans les campagnes électorales d'Emmanuel Macron en 2017 et 2022. Alexandre Chauveau, le ministre de l'économie, a donc reconnu une dérive qu'il dit avoir corrigée.
Oui, et c'est la première fois qu'un ministre reconnaît que le recours à ses cabinets a pu être trop important. Bruno Le Maire concède des abus de la part des ministères après qu'en mars dernier, la commission d'enquête du Sénat avait révélé que les contrats conclus entre l'État et les entreprises de conseil avaient plus que doublé entre 2018 et 2021 pour atteindre le montant record d'1 milliard d'euros l'an dernier. Bruno Le Maire invité tout à l'heure de France 3.
Je pense que nous sommes allés trop loin. Depuis des années, c'est ce gouvernement, des gouvernements précédents, des majorités précédentes, dans le fond, n'avaient pris sans doute trop l'habitude de dire, voilà, l'administration n'est pas capable de faire ce travail, on va externaliser et demander à des cabinets de conseil. Je pense qu'il y a eu effectivement une dérive.
Et Bruno Le Maire de préciser que cette dérive a été, selon lui, corrigée depuis la circulaire d'Elisabeth Borne invitant les ministères à réduire de 15% le recours à ses cabinets. Rappelons que McKinsey, qui fait partie de ces cabinets, est également visé par une enquête préliminaire pour blanchiment aggravé de fraude fiscale.
Merci Alexandre Chauveau. Les députés français vont-ils travailler moins longtemps? Hors de portée de micro, plusieurs élus, toutes couleurs politiques confondues, font part de leur fatigue en raison du rythme intense entre séances et travail en circonscription. La question sera en tout cas évoqué lors de la réunion des présidents de groupe mardi. Parmi les propositions, finir les séances au maximum à 21h ou alors sanctuariser au moins deux soirées par semaine. Au moins un RER dans 10 métropoles françaises. C'est l'objectif que veut fixer Emmanuel Macron avec le développement de ce transport ferroviaire quotidien. Le président de la République espère favoriser la transition énergétique. En région parisienne, près de 2 millions de voyageurs empruntent chaque jour le RER. Record absolu du nombre de détenus en France. Ils étaient 72 809 au mois de novembre selon les statistiques du ministère de la Justice. Un nombre qui dépasse donc le précédent record de mars 2020. La densité carcérale atteint désormais 120% contre 115,4% il y a un an. À Coignères dans les Yvelines, un adolescent de 14 ans est décédé après avoir reçu plusieurs coups de marteau à la tête lors d'un affrontement entre deux bandes rivales. Un jeune homme de 16 ans a été placé en garde à vue après s'être présenté comme l'auteur de ce meurtre. La rixe auquel ils ont tous les deux participé opposait des jeunes du quartier de la Friche de Maurepas, dont était issue la victime, contre celle rivale des marchands de Coignères. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte. Sommes-nous face à une 9e vague de Covid? Depuis plusieurs jours, les indicateurs repartent à la hausse. Les taux d'incidence et de positivité augmentent. Nous faisons donc bel et bien face à une intensification de la circulation du coronavirus dans le pays. L'infectiologue Éric Combe était l'invité de Pierre de Villeneuve sur Europe 1. Il regrette que beaucoup de personnes ne portent pas le masque dans les transports.
Je vais vous dire franchement, moi dans les transports, je continue de le porter. Donc depuis la 8e vague en fait. Hein. C'est incroyable, on est très très peu. Hein. J'estimerais qu'on est que 10% à le porter dans les transports parisiens. Hein. À peu près. Question. C'est trop peu. Il faudrait qu'on soit plus à le porter dans les transports parisiens. Il faudrait aussi qu'on soit beaucoup plus à se vacciner avec le vaccin bivalent qui contient le variant Omicron. Là, actuellement, on parle de 9e vague. Hein. Ça y est. Alors, c'est un peu paradoxal parce qu'on sort à peine de la 8e vague. Probablement parce qu'il y a ce sous-variant qui est en train d'émerger. Bon, il faut quand même se rappeler qu'il appartient à la famille Omicron, en tout cas pour le moment. Quoi. Donc, disons que c'est un petit enfant d'Omicron.
En Chine, une reprise épidémique est également observée. Elle contraint le régime de Pékin à prendre des mesures drastiques qui suscitent le mécontentement de la population. Le pays fait face à une vague inédite de contestations. Plusieurs manifestations ont éclaté à Shanghai, Pékin ou encore à Wuhan, ville où a été détecté le premier cas mondial de Covid-19. Johan Tritz, plusieurs citoyens chinois se révoltent donc face à la politique zéro Covid prônée par le gouvernement.
Des manifestants, debout, face à la police, notamment, vous venez de l'entendre, à Shanghai, scandant « Servez le peuple » et d'autres slogans hostiles au gouvernement, appelant même à la démission de Xi Jinping, des événements rares en Chine même, du jamais vu depuis les manifestations étudiantes de 1989. La colère monte dans le pays à cause des mesures anti-Covid jugées trop strictes. Dans de nombreuses villes, des centaines d'étudiants, mais aussi des habitants montrent leur mécontentement, brandissant des feuilles de papier blanc, symbole de la censure, et tentant d'interpeller la police.
Votre famille et vos enfants ne sont-ils pas des citoyens aussi? Pourquoi pointez-vous vos armes sur nous? Est-ce que la police est censée être contre le peuple?
Aujourd'hui, un tiers du pays est encore confiné.
Merci Johan. Au Royaume-Uni, face au prix de l'énergie qui s'envole et à la crise du coût de la vie, une initiative a vu le jour un peu partout dans le pays. Cela s'appelle les banques chaudes, en référence au terme de banque alimentaire. Et ce sont des espaces où l'on peut venir pour rester au chaud sans rien payer. Le concept est développé par diverses institutions comme les lieux de culte, les bibliothèques municipales et les associations. Reportage à Londres avec Anaïs Cordoba.
Dans cette banque chaude d'une association caritative du sud de Londres, des fauteuils confortables, du café et des biscuits à volonté, un espace de jeu pour enfants et une bibliothèque où a pris place Christina. Elle vit dans la rue et est venue s'abriter de la pluie.
Je me plais bien ici. Je viens pour manger ou même juste boire un café ou un thé. Il fait bien chaud et puis parfois, il y a des enfants qui viennent jouer, c'est chaleureux. Il n'y a pas que des gens seuls, comme moi.
L'espace est ouvert à tous et ici on utilise le terme de salon plutôt que de banque chaude pour ne pas stigmatiser, comme l'explique Nathan, le responsable. Lui s'inquiète de voir toujours plus de nouveaux arrivants alors que l'hiver n'a même pas encore commencé.
Le nombre de gens qui ont besoin de nos services a déjà augmenté. Et on voit de plus en plus de gens de tout horizon, comme cette dame qui travaille à temps plein dans le quartier et qui est venue hier soir pour boire une soupe.
Cet automne, 2200 banques chaudes ont déjà ouvert au Royaume-Uni. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Dans le reste de l'actualité internationale, le gouvernement italien proclame l'état d'urgence sur l'île d'Ischia après un glissement de terrain meurtrier intervenu hier. Il prévoit une première enveloppe de 2 millions d'euros pour venir en aide à la population locale. Une dizaine de personnes sont toujours portées disparues et une femme de 31 ans a perdu la vie. Les opérations de secours sont particulièrement compliquées en raison des conditions météorologiques. Retour en France où 1500 foyers sont toujours privés de gaz en région parisienne en cause. Un mouvement social au sein du fournisseur GRDF. Les salariés demandent une hausse des salaires au moment des négociations. Ils ont obtenu 2,3% d'augmentation contre 4,6% pour les autres salariés de la branche. Écoutez Thomas Dutel, représentant CGT de la GRDF.
La revendication qui est réclamée, elle représente 18 millions d'euros. Il faut savoir qu'aujourd'hui, GRDF a remonté 518 millions d'euros à l'actionnaire qui est Engie. Nous, en réclamant juste 18 millions d'euros, on estime qu'on ne va pas mettre la boîte en difficulté. À certains endroits, les agents ont décidé d'occuper leur site de travail en les filtrant, c'est-à-dire en bloquant l'ensemble des véhicules, du matériel. Et à d'autres endroits, en se mettant en grève à certains moments de la journée, empêche la réalisation de certaines activités. Donc oui, on est conscient que ça amène une certaine gêne dans le cadre du retard d'activité qui impacte les mises en service. Et depuis le départ, la direction reste complètement fermée à toute discussion, sans aucune proposition. On fait le constat en fait qu'on arrive à un enveniment, voire à partir de la semaine prochaine peut-être à une augmentation du nombre de personnes en grève et peut-être une crispation beaucoup plus grande que ce qu'on connaît aujourd'hui.
La grève devrait se terminer le 2 décembre, mais elle pourrait être reconduite jusqu'au 31 si aucune négociation n'a lieu. D'autres foyers pourraient donc se retrouver sans eau chaude ni chauffage. Hier, vous étiez 11,6 millions devant votre téléviseur pour suivre la victoire des Bleus face au Danemark. Un beau score malgré les appels au boycott de cette Coupe du Monde de football au Qatar. Un beau succès pour les audiences, Alexandra Jégui.
Oui Arthur, un pic à 14,6 millions de téléspectateurs a même été atteint hier. Alors en comparaison, pendant la Coupe du Monde de 2018, lors du deuxième match de la France contre le Pérou, 10,7 millions de personnes étaient derrière leurs écrans. C'était un jeudi à 17h. Cette fois, le match France-Danemark est la deuxième meilleure audience de l'année, toutes chaînes confondues, derrière France-Australie mardi dernier. La rencontre avait réuni 12,5 millions de téléspectateurs, soit 48% de part de marché. Des chiffres qu'il faut toutefois relativiser, car en termes de part d'audience, c'est moins qu'en 2018. D'autant plus que cette année, Médiamétrie prend aussi en compte les diffusions dans les bars, les restaurants et sur les smartphones et les tablettes. Les appels au boycott du Qatar se font donc assez peu sentir sur les audiences françaises, alors que pour l'instant, en Allemagne, le mondial est boudé. 9,2 millions de téléspectateurs pour le dernier match allemand, c'est même trois fois moins qu'en 2018.
Merci Alexandra Jégui. Toujours concernant la Coupe du Monde de football, retour sur les matchs de la journée. Le Costa Rica a remporté son match face au Japon, 1-0. De leur côté, les Marocains ont réussi l'exploit en battant la Belgique, 2-0. Et enfin, c'est la Croatie qui l'emporte face au Canada, 4-1. Et dans moins d'une heure, vous pourrez suivre en direct sur Europe 1, radio officielle du Mondial, le match Espagne-Allemagne. Et en direct, depuis le stade Al Bayt au Qatar, nous retrouvons Cyril de la Morinerie. Ce soir, Cyril, c'est un match exceptionnel que nous attendons.
Ah oui, c'est le premier grand choc de cette Coupe du Monde de football. L'Espagne, championne du monde 2010, et l'Allemagne, quadruple vainqueur de l'épreuve. Deux équipes mythiques. C'est à la vie, à la mort pour la Mannschaft hein, ce soir. Après sa défaite surprise contre le Japon de 2-1, eh bien la Mannschaft pourrait être pratiquement éliminée ce soir, mais pas officiellement en cas de défaite. Rappelez-vous, il y a 4 ans déjà, les champions du monde en titre avaient été éliminés dès le premier tour. Alors les coéquipiers de Manuel Neuer sont arrivés ici au Stade Al Bayt, le visage très concentrés, ils ont de l'expérience avec deux monstres sacrés du Bayern Munich, le gardien Neuer et puis le milieu Thomas Müller. De son côté l'Espagne qui a étrié le Costa Rica 7-0 est sûr de son football, c'est un collectif magnifique, un mélange d'expérience avec Sergio Busquets, le milieu légendaire du FC Barcelone, et puis avec de la jeunesse, les jeunes pétris de talent comme Pedri et Gavi. Le demi-finaliste du dernier Euro peut se qualifier dès ce soir pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde en cas de victoire, ce qui nous promet une véritable bataille, une affiche formidable à suivre en intégralité sur Europe 1.
Merci Cyril de la Morinerie. Et pour finir ce journal, un point sur la météo. Marlène Duret, on n'oublie pas son parapluie demain.
Absolument, notre perturbation pluvieuse est fin prête pour traverser le pays. D'ici à demain, elle va d'abord balayer une mode moitié ouest. Et puis dans l'après-midi, on va retrouver le plus gros de ces pluies sur une bande allant de la Lorraine à la Franche-Comté, à Rhône-Alpes, jusqu'au Gard et à une partie de la Côte d'Azur, avec de bonnes pluies potentiellement orageuses hein, en basse vallée du Rhône. Une fois la perturbation passée, donc dans les régions de la moitié ouest, disons, eh bien les averses prendront le relais, plus ou moins tardivement d'ailleurs, avec des éclaircies qui perceront. Alors elles seront plus larges de la Vendée au sud Finistère. À noter qu'un orage est possible sur la côte landaise et basque, et puis que la neige, et oui, la neige apparaîtra en moyenne montagne, donc dans les Pyrénées, Massif central, les Alpes du Nord. On termine par la Corse, où le temps là restera nuageux mais sec. Les températures maximales seront le plus souvent comprises entre 8 degrés à Grenoble et 13 le long de l'Atlantique, avec 11 à Paris, mais les thermomètres pourront atteindre les 15 degrés sur la Côte d'Azur et même 17 dans le sud de la Corse.
Merci Marlène Duret. Il est 19h13, vous écoutez Europe 1. Tout de suite, Europe 1 Sport avec Lionel Rosso.